Radio Kapi. Oh, Kapi.
Bienvenue à ce journal présenté par Belinda Bossouma. Tout de suite, le sommaire. Arrestation hier du chargé de propagande des rebelles ADF à Kazaro, dans le territoire de Beni. 26 ans révolus, Salim Rachid Mohamed, un Kenyan, serait un terroriste reconnu par les services de renseignement de certains pays africains. Pour l'heure, il est auditionné par les services de renseignement. Lancement cette semaine dans le Haut-Katanga de l'opération d'identification des bénéficiaires directs du projet Pabé à Cobalt. Il s'agit d'identifier les jeunes qui travaillent dans les sites miniers de Cobalt, un projet du gouvernement congolais appuyé par la Banque africaine de développement. Et puis, l'invité de ce midi, John Banyene, président de la coordination provinciale de la société civile du Nord Kivu, il nous parle de la demande de sa structure au chef de l'État de renforcer la sécurité et la surveillance aux frontières rwando-congolaises, demande consécutive aux attaques répétées des présumés M23 dans le Rutshuru. Madame, Messieurs, bonjour. Ouvrons ce journal par l'arrestation hier par les FARDC de Salim Rachid Mohamed, présenté par les services de renseignement comme l'informaticien et chargé de propagande du groupe rebelle ADF. Son arrestation a eu lieu à Kazaro, un village du groupement Batangimbaou dans le territoire de Beni. Jusqu'hier, tard dans la soirée, ce combattant ADF était auditionné par les services de renseignement. Mais qui est réellement Salim Rachid Mohamed? Martial Papimoukeba nous en
26 ans révolus, Salim Rachid Mohamed, de nationalité kenyane, opérait sous le sobriquet de Chotara à Katurki. Selon des sources sécuritaires, il s'agirait d'un terroriste connu et fiché par les services de renseignement de certains pays de la sous-région des Grands Lacs. Il y a quelques années, il se serait déjà rendu en Syrie et en Turquie, où il aurait rejoint les groupes terroristes de l'État islamique. En 2019, il avait été arrêté au Kenya après son retour au pays. Aucune source n'est tout de même à mesure de donner des précisions sur les circonstances de sa libération et par la suite de son recrutement au sein des ADF dans la région de Beni. Depuis quelques mois, Salim Rachid Mohamed apparaissait à visage découvert dans des vidéos de propagande du groupe ADF, tué à la machette des civils et des militaires. Son arrestation intervient 17 jours après celui de Benjamin Kisokeranyo, officiellement chef des renseignements et des ravitaillements des ADF jusqu'en 2019, deux mois après le lancement des opérations conjointes FARDC-UPDF contre ces groupes rebelles. Beni, Martial Papimoukeba, Radio Okapi.
Pendant ce temps, en Ituri, 7 personnes ont été sauvagement abattues par des assaillants de la Codeco ce samedi matin à Lagui, village proche du centre de Dala, dans le territoire de Djougou. La société civile locale indique que ces malfrats, avant d'être pourchassés dans cette entité par les éléments du groupe d'autodéfense, ils ont incendié plusieurs maisons d'habitation. Le récit de Martial Kizabiamungu.
C'est aux environs des 4h ce matin qu'un groupe d'assaillants de la Codeco s'est introduit dans la petite localité de Alagui, dans la chefferie du Mambisa. Selon la société civile locale, ces rebelles qui portaient des armes à feu et des machettes étaient accompagnés de leurs dépendants, dont des femmes et enfants qui chantaient dans leur dialecte. Profitant de l'absence de FARDC dans cette entité, ils ont ouvert les feux en l'air pour terroriser la population avant de s'introduire dans leur maison. Plusieurs sources concordantes parlent de 7 personnes tuées par balles et d'autres à la machette. Parmi les victimes, il y aurait 2 enfants. Du coup, des jeunes du groupe dit d'autodéfense Zaïre ont répliqué à cette attaque, souligne la société civile de Mambisa. L'accrochage entre les deux parties a duré jusqu'aux petites heures ce matin. Pour le moment, et selon des sources sur place, le calme est revenu dans cette entité, mais la population vit la peur au ventre. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Retour au Nord Kivu. Les acteurs de la société civile de Lubero décrit l'activisme accru des miliciens Maïmaï dans la région de Kitsombiro, chefferie de Bamaté. C'est sur la route nationale numéro 2 reliant les villes de Butembo et Goma. Selon les sources locales, ces milices occupent plusieurs villages et s'illustrent actuellement par des extorsions des biens de la population et des embuscades. La société civile appelle les autorités compétentes à résoudre ce problème grâce à Mzati. Reportage.
Parmi les villages occupés par ces miliciens, la société civile cite notamment Lubango, Ipili, Kilonge, Lukuveve, Mambasa, Oute et Bienve. Cette source souligne que ces maïmaï tracassent les populations et tendent des embuscades sur cette route dont la dernière remonte au début de cette semaine qui s'achève lorsqu'un agent de sécurité a été grièvement blessé par balle. La société civile ajoute que dans certaines de ces entités, il n'y a aucune présence des FARDC à cause des attaques répétitives de ces miliciens contre leur position. Le chef de la chefferie de Bamate qui confirme ces faits déplore le fait que ces miliciens ont établi un calendrier hebdomadaire pour collecter des vivres dans chaque village. Deux sacs de farine, une chèvre, des poules et même de l'argent au minimum doivent être collectés auprès de chaque chef de village appelé communément Kapita, rapporte-moi Mimukosa Senge. Cette autorité coutumière plaide ainsi pour le renforcement de la présence des forces de sécurité dans cette zone. Contacté, l'administrateur assistant du territoire de Lubero, le commissaire supérieur principal, Joseph Komaya, dit vouloir prendre contact avec les commandants des opérations Sokola 1 Axe Sud pour trouver une solution au problème. Butembo, grâce à Mzati, Radio Kapi.
Sud Kivu, dans le haut plateau du territoire d'Uvira, des rebelles burundais de Red Tabara, alliés aux miliciens Maïmaï, ont été délogés jeudi à Masango, dans le groupement de Bijombo. C'est après des tirs intenses depuis mercredi dans ce village, des combats qui opposaient ces rebelles à la coalition Twigwaneo-Ngumino, alliés aux éléments Imbonerakure, proches du régime au Burundi. Explication de Fiston Ngoma Mayabala.
Masango était encore habité par une communauté locale et considéré comme la zone de concentration et le fief des combattants Maïmaï alliés au roi de Tabara lorsqu'il a été attaqué. Des blessés évacués jeudi soir vers Bijombo ont plongé les déplacés internes locaux dans la panique totale. Avant Masango, les belligérants burundais et leurs alliés congolais avaient marché sur les villages Rudefoué, Marimba, Majaga et Mashuba où des sources locales dénoncent des cas de tueries, d'incendies de maisons, de pillages des produits agricoles dans les champs et des déplacements des populations civiles. Le coordonnateur de la nouvelle société civile congolaise de la région des Hauts Plateaux Pacifiques Kararuka affirme que plusieurs dizaines de civils ont été tués sur le parcours des belligérants. Du côté de l'armée, les porte-parole des FRDC à Uvira, le lieutenant Marc Elongo, confirme les affrontements entre deux factions des groupes rebelles burundais sur le territoire congolais. La même source rassure, sans donner des détails, que l'armée s'attelle sur ces dossiers. Pour l'instant, les éléments burundais des rois de Tabara, d'Aloïs Nzabampema, alliés à certains miliciens Maïmaï, se sont retirés vers la forêt d'Itombwe dans le territoire de Mwenga. Tandis que les combattants Gumino Turwa Neodenya Moussaraba, alliés à d'autres miliciens Maïmaï et aux Burundais Imbonerakure, contrôlent encore la zone de Masango et ses environs. D'Uvira Fiston Mamayabala, Radio Kapi.
Rendons-nous dans la province du Tanganyika. Les habitants de Kongolo ont passé la journée d'hier dans un calme inhabituel. Motif, un cambriolage a ciblé un opérateur économique connu dans la ville. Les premiers éléments qui filtrent de ce dossier font état de 25 000 dollars américains et une somme évaluée à 45 millions de francs congolais emportés dans cette attaque. Des bandits à main armée ont mené tard la nuit ce cambriolage qui n'a pas causé des dégâts humains. Les services de sécurité indiquent avoir entrepris des démarches. Je propose d'écouter la victime. Muga Luganda Bin Augustin, jointe au téléphone par François-Xavier Mibé.
Tout est parti autour des 0h avec la casse des portes. Ma sœur est sortie. Un groupe armé l'a braquée. Elle est rentrée vite sur ses pas. 20 minutes, la première porte a cédé. Ils ont bloqué toutes les voies d'accès à ma parcelle. Ils ont entamé une deuxième porte. Encore 20 minutes, la deuxième porte a aussi cédé. Ils ont accédé dans ma chambre. Ils m'ont demandé de faire un choix entre la vie et la mort. J'ai résolu de céder le coffre contenant 25 000 dollars américains et 45 millions de francs congolais. Ils ont discuté entre eux et m'ont épargné la vie. Ils m'ont ravi plusieurs autres effets de valeur, comme des appareils et un sac contenant tous mes documents de commerce. Et ils s'en sont allés.
Clôture hier à Goma de la conférence internationale des jeunes pour la paix et le développement dans les Grands Lacs. Une centaine des jeunes venus du Rwanda, de l'Ouganda, de la Tanzanie et de la RDC y ont participé dans le cadre du projet régional des jeunes pour la paix et le dialogue, ce avec l'appui de l'Union européenne et de la Fondation Konrad Adenauer notamment. Après 5 jours d'atelier, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette conférence, Jules Ngala?
Selon le coordinateur du projet régional des jeunes pour la paix et le dialogue, les jeunes participants ont élaboré un plan régional pour 2 ans, soit le reste de la durée totale du projet qui est de 3 ans. Isaac Mouchele précise que ce plan vise notamment, et je cite, des actions communes visant le dialogue avec les autorités transfrontalières, le renforcement de la collaboration régionale entre les jeunes ou la prévention des conflits entre communautés. Des projets communs que son programme est prêt à appuyer pour environ 1 500 000 dollars américains de l'enveloppe allouée par les partenaires, dont l'Union européenne. Goma, Jules Galawamona, Radio Okapi.
Je vous le disais en titre, après la province du Lualaba, c'est au tour de la province du Haut-Katanga de lancer l'identification des bénéficiaires directs du projet Pabea Cobalt. C'est un projet du gouvernement congolais qui bénéficie de l'appui financier de la Banque africaine de développement BAD. À cette occasion, le gouverneur du Haut-Katanga s'est aussi engagé à lutter contre la présence des enfants dans les sites miniers et leurs environs. La coordonnatrice de ce projet en a profité pour appeler à une grande mobilisation pour une identification massive des jeunes qui travaillent dans les sites miniers de cobalt. On écoute Alice Miri Mokabeti au micro de Jean Gandou.
Nous encourageons tous les enfants qui sont dans les sites miniers artisanaux du cobalt de venir se faire enregistrer. Nous encourageons tous les parents qui ont des enfants qui fréquentent ces sites de venir faire enregistrer les enfants. L'objectif de ce projet, c'est 0 enfant dans les sites miniers artisanaux de cobalt, parce que la place de ces enfants est en famille et à l'école. Le projet prévoit de réinsérer environ 14 850 enfants, filles et garçons, d'assurer la reconversion économique d'au moins 6 250 ménages et aussi la reconversion des jeunes qui travaillent dans les sites miniers vers l'agro-business. Et nous pensons créer plusieurs emplois directs et indirects et aussi assurer la structuration de plus ou moins 1 250 coopératives agricoles et coopératives minières des jeunes. Donc c'est vraiment un projet d'investissement qui va offrir à notre province du Haut-Katanga plusieurs opportunités d'affaires et va renforcer les revenus des parents et va offrir aussi une éducation de qualité à nos enfants pour que nos enfants ne fréquentent plus jamais les sites miniers.
Province du Maniema, dans le cadre de la dissémination du rapport d'évaluation de la mise en œuvre de la convention de collaboration relative au développement d'un projet minier et d'un projet d'infrastructure en RDC, projet sino-congolaise des mines, en abrégé SICOMINE, la coalition Publiez ce que vous payez a organisé hier à Kindu une séance de partage du dit rapport. Y ont pris part les membres de la société civile, les autorités politico-administratives. Objectif, amener la population du Maniema à connaître le contenu de ce contrat, ce qui a été fait et ce qui n'a pas été fait depuis 2008. On écoute à ce sujet Paul Kasongo, point focal de la coalition Publiez ce que vous payez. Il est au micro de Florence Kizalunga.
Le constat, à notre avis, comme membre de la société civile, est amer. C'est un contrat qui défavorise la RDC. Quand on a initié le contrat, on a soutenu le contrat parce qu'on disait c'est le troc. Nous vous donnons nos minerais, vous nous construisez des infrastructures. Mais à la mise en œuvre, en tout cas, il y a beaucoup de choses, trop de négatifs, qui ne valent plus la peine, qu'il faut maintenant réviser, voire arrêter en cas de nécessité. Parce que l'État aujourd'hui ne gagne rien, ou la population ne gagne rien. Un, il y a déséquilibre de part. Nous, société civile, nous condamnons. On ne peut pas voir un grand projet qui couvre 10 millions de tonnes de réserves de cuivre et cobalt. Le Congo les donne sans contrepartie. Dans le capital social qu'ils ont constitué entre les entreprises chinoises et la RDC, les Chinois donnent 68 millions, la RDC a donné 32 millions. Maintenant, quelle est la contrepartie de notre gisement important, juste de 10 millions de tonnes de minerais? En plus, le projet connaît l'exonération totale de 2018 à nos jours.
Actualité internationale.
Pendant près de 10 jours, la tempête Anna a dévasté une partie de l'Afrique australe, du Mozambique à Madagascar, en passant par le Malawi. Au retour du soleil, c'est le désespoir d'une partie de la population qui apparaît. À Tananarive, certains habitants osent revenir dans leur quartier, voir ce qu'il reste de leur maison. Certains ont tout perdu, mais essayent de reconstruire sur les débris. Je suis très triste car nous travaillons comme des fous pour obtenir de l'argent et maintenant la maison est détruite, raconte un habitant devant les briques effondrées de son son ancienne maison. Comment ne pas être triste? Nous sommes des sinistrés et nous ne recevons aucune aide, aucune mesure de soutien. Il n'y a rien, ajoute-t-il. Les membres de la Coordination nationale des familles des Marocains détenus en Syrie et en Irak se sont réunis hier matin devant le Parlement à Rabat sous le slogan « Sauvez nos fils et nos filles avant qu'il ne soit trop tard ». Ils dénoncent les conditions de détention de leurs proches accusés d'avoir rejoint le groupe État islamique.
L'invité.
Comme annoncé, nous recevons le président de la coordination provinciale de la société civile du Nord Kivu. Cette structure, à travers un communiqué rendu public mercredi, demande au président de la République de renforcer la sécurité et la surveillance aux frontières rwando-congolaises. C'est en réaction aux attaques depuis lundi des présumés M23 dans le territoire de Rutshuru. John Banyene parle de cette demande dans cet entretien avec Bernard Nyangi.
Monsieur John Banyene, bonjour.
Bonjour.
Dans ce communiqué, vous parlez effectivement de ce qui se passe dans la zone de Rugari et aussi Gisigari, où il y a des affrontements depuis quelques jours déjà. Quelle est la situation que vous avez actuellement par rapport à ça?
La situation qui prévaut plus précisément dans le groupement de Gisigari et Rugari, c'est une situation déplorable. Vous savez que ça fait longtemps qu'il y a eu toujours des incursions des ex-éléments du M23 qui attaquent souvent les positions des FARDC. Et voilà que la nuit du 24 au 25, il y a eu encore des attaques de ces assaillants M23 qui ont attaqué les positions de FARDC au niveau de Nyesisi, Ngougo et Kigeri. Et là, il y a eu des pertes du côté de FARDC. Et c'est une situation que nous sommes en train de déplorer. Parce que nous observons que nos FARDC jouent seulement à la défensive au lieu de faire l'offensive. Donc, ils attendent d'être attaqués pour riposter, ce qui n'est pas une bonne chose. Vous savez que dans un communiqué du M23, ils avaient dit qu'ils sont sur les sols congolais. Mais nous, on s'est toujours demandé, ils sont où? Quoique cela revient au FARDC de connaître là où se trouvent ces éléments du M23.
Vous voulez faire allusion à ce qui s'est passé à Massissi il y a quelques jours?
Effectivement, vous savez que à Massissi, il y a des gens qui ont été arrêtés par l'armée régulière et ces gens disaient qu'ils ont été recrutés dans le cadre de vouloir créer un mouvement pour la balkanisation de ces pays. Et voilà, et cela nous pousse effectivement à dire qu'il y a des gens ex-M23 qui se camouflent dans beaucoup de territoires comme dans le territoire de Massissi.
Et qu'est-ce que vous avez à la société civile par rapport surtout au mouvement des populations?
Par rapport au mouvement des populations, c'est depuis avant-hier que la population de ce village que je venais de citer tantôt, Nyenyesi, Ngougo et Kigeri, il y a la population qui se déplace, certains vers Rutshuru, d'autres vers Kibumba, voire même Goma. Cette population, elle est sous la belle étoile et sans assistance aucune.
Et par rapport à vos analyses que vous faites comme société civile, qu'est-ce que vous pensez qui devrait être fait par peut-être le gouvernement ou l'armée ou le président de la République?
Ça fait longtemps que nous, on a toujours dit que nos frontières sont poreuses. Et aussi longtemps que nos frontières ne sont pas bien sécurisées, nous aurons toujours des problèmes. Raison pour laquelle nous sommes entrés de lancer un cri d'alarme. Nous invitons surtout le chef de l'État, qui est le commandant suprême, et le chef d'état-major général de venir ici au Nord Kivu, parce que ce n'est pas la première incursion de ces éléments M23, voire même les RDF. Ils entrent souvent chez nous comme ils veulent, parce que nos frontières ne sont pas vraiment sécurisées. Raison pour laquelle nous, on invitait le chef de l'État de venir lui-même sur terre, se rendre compte de ce qui se passe surtout à la frontière congolo-rwandaise, de tout faire pour augmenter les effectifs militaires sur la frontière congolo-rwandaise. Il faut une unité spéciale qui est bien formée, qui doit être bien équipée pour sécuriser nos frontières, pour que nous puissions connaître que notre intégrité territoriale est vraiment protégée.
Je vois que dans votre communiqué, vous parlez aussi du Conseil de sécurité des Nations Unies. Qu'est-ce que vous attendez à cette instance aussi?
Oui, vous savez que pour ce qui concerne le Conseil de sécurité, nous avons la force de la MONUSCO ici chez nous. La population, nous sommes en train de dire finalement, la MONUSCO est là comme mission d'abord de protéger la population civile et la stabilité aussi. Et voilà, quand il y a chaque fois des déplacements des populations à cause des affrontements de l'armée avec certains groupes armés, voilà que c'est toujours la population qui est victime. Raison pour laquelle nous sommes en train de demander au Conseil de sécurité de voter dans l'urgence une résolution pouvant permettre aux troupes de la MONUSCO et à la brigade d'intervention de combattre aux côtés des FARDC pour neutraliser les groupes armés, que ce soit les groupes armés nationaux et les groupes armés étrangers.
Et pendant ce temps, vous, société civile, vous faites quoi? La population peut aussi faire quoi comme contribution face à tout ce qui se passe?
Nous, comme société civile, nous avons la première mission à attaquer sentinelle de la population. Et la population, nous la demandons d'être vigilante, de rester en étroite collaboration avec nos services de sécurité ainsi que nos FARDC. Vous savez que nous n'avons pas des armées, nous n'avons que INE, le FARDC, que nous devons soutenir et de rester en étroite collaboration avec nos forces armées.
Monsieur John Banyene, merci.
C'est moi qui vous remercie.
Voilà, c'était là notre invité, le président de la coordination provinciale de la Société civile du Nord Kivu. Il s'entretenait avec Bernardin Nyangui. C'est la fin de ce journal, coordonné par Richard Junior Kamunga, supervision de Ben Kabamba. Willem Lungamba était à la mise en onde et Belinda Bosuma vous l'a présenté. Merci.